Le lundi, dans la deuxième partie de l'EM, c'est un ou une deuxième invitée. En général, c'est sans lien avec la première partie. Eh bien là, ce n'est pas tout à fait vrai, car on évoque un rendez-vous qui a lieu à Renard-Pince, à Châteaulin, jeudi. C'est la Maison qui pousse, la librairie Maison de la Presse coopérative, qui invite Pierre-Yves Bulteau, un journaliste enquêteur. Il est l'un des fondateurs de Splan, le média breton d'investigation indépendant. Et il a expliqué à Tristan Legros le sujet de la causerie qu'il propose jeudi.
Donc je viens à Châteaulin à la fois pour présenter Splan, ce média en particulier, et puis pour parler de deux thématiques qui sont le bocage et le remembrement. Le bocage parce qu'on a sorti une enquête notamment sur les haies et tous les enjeux de ce que ça veut dire de d'arracher les haies. Et puis le remembrement parce que c'est aussi un thème développé par Inès Leroux, qui est journaliste et marraine de Splan, dans sa dernière BD qui s'appelle « Sur le champ de bataille ». Alors, je ne sais pas si je peux définir ce qu'est le remembrement, mais je peux dire que c'est une politique qui a été mise en place dans les années 40 par l'État français. Et en fait, c'est une manière de mettre au pas la civilisation rurale pour la rendre docile et surtout pour que les hommes, les paysans, puissent aller travailler dans les usines d'agroalimentaire. Dans les années 40, on comptait à peu près 7 millions de fermes. Aujourd'hui, il y en a 400 000. Et en fait, ce remembrement, c'est pas qu'une question agricole, c'est une question aussi sociale, puisque remembrer, c'était aussi s'attaquer à la culture bretonne, c'était aussi s'attaquer à un mode de vie social, un mode de vie qui était résilient face au climat, qui utilisait des ressources naturelles. Et en fait, remembrer le bocage breton, c'était aussi faire plus de place à l'industrie et au capitalisme dans cette région de France, puisqu'il y a un plan d'après-guerre qui visait à renourrir la France, et la Bretagne a notamment été choisie pour être une région qui devait renourrir la France. Voilà ce que je peux dire.
Inès Leroux, dans son enquête et dans l'adaptation en bande dessinée, elle met beaucoup en perspective une histoire d'opposition qui a été enfouie. Est-ce que vous allez parler de ça ?
Oui, effectivement, il y a dans cette question, il y a la question des mémoires, il y a la question des opposants et la question des partisans. Hein. Comme toujours, certains ont dit que c'était une bonne occasion de développer, de désenclaver la Bretagne, et d'autres disaient que c'était une folie de se lancer dans cette politique. Et effectivement, je parlais qu'il y a des villages encore aujourd'hui où c'est très impressionnant de voir ces cicatrices mémorielles où il peut y avoir deux sociétés de chasse, même endroit, deux bars. Et en fait, il y a une société où sont les opposants, une société où sont les partisans. Je dirais aussi que ça a été une manière de monter les uns contre les autres, avec notamment l'utilisation de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'au lieu d'enfermer en prison les opposants, on les envoyait en HP pour dire, vous voyez, ils sont fous, et donc en fait décrédibiliser la lutte, quoi. Donc effectivement, oui, je pense que je vais parler aussi de ça. Ouais.
Oui, elle raconte l'histoire d'un opposant qui a été interné, qu'on a psychiatrisé, et en fait, que ça a vraiment beaucoup abîmé ensuite.
C'est Gildas de Cointe qui a été emprisonné à partir de mai 1978, et effectivement, il a fait 9 mois en hôpital psy. Et en fait, ça a laissé des traces chez les gens, parce que quand vous êtes un opposant et qu'on vous envoie en prison, on vous envoie au tribunal, il y a comme une forme d'égalité, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord, mais on va mettre en place un tribunal ou quelque chose qui a l'air de la justice. Mettre des prisonniers en hôpital psychiatrique, ce n'est plus dire qu'il y aurait une justice ou une égalité, c'est de dire qu'ils sont fous, donc le combat qu'ils portent n'est pas rationnel, et donc vous voyez, il faut que vous soyez dans notre camp. Donc ça, c'est effectivement un aspect très intéressant, notamment de l'enquête d'Inès, oui. On était vraiment dans un projet d'État qui avait été mis en place par Pisani-Ferry, hein, où il fallait révolutionner le monde paysan, et en gros, il fallait le mettre en ordre de marche pour fournir de la main-d'œuvre aux usines, et notamment aux industries agroalimentaire, et puis il fallait aussi qu'une agriculture devienne consommatrice de produits industriels, de tracteurs, de produits chimiques. Et en fait, comment l'agriculture paysanne est devenue une agriculture industrielle, Et comment, si on revient au remembrement ou aux haies, comment on a aussi mis au pas des hommes et des femmes, mais mis au pas aussi un territoire, puisqu'on a arraché les haies, puisqu'on a maltraité la terre avec les engrais, les pesticides, les produits chimiques. Donc vous voyez, en fait, c'est une sorte de colonisation de l'intérieur de la civilisation rurale où on met au pas tant les hommes que la terre.
Comment expliquer que toute cette dimension ait été un peu occultée dans ce qu'on connaît du remembrement aujourd'hui, notamment en Bretagne, parce que c'est toujours présenté comme un progrès, comme un processus de modernisation et de transformation de l'agriculture paysanne en industrie. Comment expliquer que ça ait été complètement enfoui ?
Bah, parce que déjà, c'est une bataille de récits, hein, et que le récit de l'agro-industrie et le récit des institutions politiques qui ont porté ça est beaucoup plus fort que le récit des militants, que le récit des opposants. Et tout l'intérêt d'un média comme Splan, c'est pas de faire de la politique ou c'est pas d'apporter un parti pris, mais c'est de donner la voix à d'autres récits. Donc je dirais, par exemple, à Châtelain aussi, que notre média, il permet d'apporter ce que vous dites, des manières d'éclairer l'histoire, d'éclairer ce qui s'est passé, et donc que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas que le récit officiel, et qu'il y a toutes ces autres voix qui montrent que les décisions qui ont été prises dans les années 40, aujourd'hui, on voit que c'est une catastrophe, on a liquidé une civilisation rurale qui était complètement résiliente. Aujourd'hui, on paye des agriculteurs pour replanter des haies parce qu'on se rend compte que les haies à un bocage aujourd'hui a un rôle prédominant. On voit avec toutes les pluies qu'il y a eu maintenant, les champs sont des vraies cascades, la terre n'arrive plus à absorber, etc. Donc notre média met en lumière ces autres récits, voilà, face à un récit tout puissant de l'agro-industrie et des politiques.
Oui, ce qui est vraiment intéressant dans la bande dessinée, c'est de redonner la parole à des gens qui l'ont vécu, notamment à des enfants qui ont toujours un regard un peu traumatique sur ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai que ça contraste vraiment avec les récits de politiques, d'ingénieurs, etc.
Exactement, c'est-à-dire que c'est tout le lien qu'il y a eu avec Inès, mais avec Léandre Mandard aussi, qui est un sociologue. Il y a ce rôle des archives. Alors à la fois des radios locales, par exemple, comme les vôtres, qui depuis longtemps documentent, parce qu'elles donnent la parole aux locaux, etc. Des archives départementales aussi, qui nous racontent ces dernières années. Et puis, par exemple, il y a Jacqueline Le Goff dans la BD d'Inès, qui est née en 1953, et qui dit, elle, aujourd'hui encore, en 2024, je revois l'apparition des bulles d'air, je me ressens de ce saccage qui détruisait tous les arbres, les talus. Et elle dit quelque chose d'intéressant, Jacqueline Le Goff, elle dit que ce n'était pas un remembrement, mais un démembrement. Et je crois qu'effectivement, que ce soit dans l'enquête Bocage et haies que nous avons produite avec Splan ou la BD d'Inès, je crois que cette phrase, elle est très forte, ce n'était pas un remembrement, mais un démembrement. C'est-à-dire qu'on a enlevé une partie de la culture, du mode de vie, de la santé, des habitants de ces régions, puisqu'il y a toutes les maladies qui en découlent. Et donc, on explique ce remembrement par un démembrement aussi.
Oui, il me semble que y a ce mot aussi employé dans la bande dessinée, c'est dépossession du monde paysan, et aussi dépossession d'un paysage intérieur, en tout cas à travers le regard des enfants.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a tous ce qu'on appelle notre petite Madeleine de Proust, qu'on soit né dans le bocage, au bord de la mer, où on a tous un repère avec un beau bocage, avec une dune, une plage, etc. Et mettre au pas et dominer ces territoires, ces terres agricoles et naturelles pour en faire des produits d'exploitation, c'est aussi casser l'imaginaire et les souvenirs de toute une génération, parce que on est tous nés, enfin en tout cas pour les ruraux, dans des endroits où ces paysages sont des photographies de notre enfance, et mettre au pas ces paysages, c'est aussi casser nos mémoires et casser notre histoire, quoi.
Vous parliez de la nécessité de replanter quelque part un bocage en Bretagne.
Ouais.
Et donc il y a des actions maintenant de plantation de haies en Bretagne, mais qui reste toujours adaptées aux machines. Est-ce que c'est suffisant ?
Non, c'est pas suffisant. Je ne sais même pas si c'est un moindre mal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé et qu'on prend conscience qu'on a cassée, on essaye de réparer, mais dès lors que vous essayez de réparer, mais quand même avec l'idée que ça ne nuise pas au système de l'agro-industrie, que vous mettez des espèces qui n'ont rien à voir avec l'écosystème du coin, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un pis-aller, quoi. C'est-à-dire que c'est, on parlait de récit tout à l'heure, c'est de remettre un récit en disant, voyez, on a pris conscience, on continue, on va faire avancer les choses. Mais en réalité, cette enquête, mais comme toutes les autres que l'on produit, c'est poser la question aujourd'hui du système agro-industriel qui, dès le départ, était une folie et qui aujourd'hui est mortel, est mortifère pour les écosystèmes, pour les humains. Donc oui, replanter des haies, ça peut être sympa pour montrer qu'on agit, mais en réalité, ça ne résout rien, quoi.
Quel est l'état du bocage en Bretagne aujourd'hui? Est-ce que, malgré ce dont on parlait, ces actions de plantation de haies, ça continue encore de décliner?
Ça continue de décliner et il y a un des volets de notre enquête qui montre que notre vie connectée, vous voyez, on est à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, on fait ça par téléphone, la fibre ou je ne sais pas quoi. Notre vie connectée est aussi à mettre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Enfin, l'agro-industrie est une grosse part, mais ces haies disparaissent aussi parce qu'il faut fibrer. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que la fibre arrive dans le moindre hameau parce qu'il faut être en 5G partout, etc. Enfin, et donc, ça, par exemple, la fibre, le télétravail, nos connexions sont un danger mortel aussi pour les haies et le bocage. Donc, c'est-à-dire ce qui est intéressant. C'est que ça pose la question de l'agro-industrie, mais ça pose la question, nous, aujourd'hui, nous, citoyens, à la fois conscients de ces enjeux environnementaux, mais qui voulons tout le temps être connectés sur la dernière information, etc. On doit aussi, nous, se poser la question jusqu'où on veut que la fibre aille et jusqu'où on est prêt à accepter que des haies soient aussi arrachées pour la fibre.
Est-ce que vous pourriez me présenter ce plan Quels sont les thèmes principaux que vous traitez? Quelles sont vos méthodes aussi?
Ouais, alors Splend, c'est un... En fait, Splend n'aurait jamais dû exister. Quand je dis ça, ça fait toujours un... ça surprend un peu toujours. Mais en fait, Splend, c'est une réaction à des menaces, premièrement, sur deux consoeurs et amis qui sont Inès Léraud et Morgane Large, et qui, au sortir du confinement, l'une et l'autre ont eu une activité qui fait que Inès a été déprogrammée d'un salon de livres pour sa BD sur les algues vertes, et puis Morgane s'est déboulonné ses roues de voiture. Et
parce donc, qu'elle enquête sur le système agro-industriel breton, c'est ça?
Parce que les deux enquêtent sur le système agro-industriel breton. Et en fait, on est quelques collègues et amis à se dire, mais là, en fait, entre une déprogrammation, une censure et des roues déboulonnées, là, ça devient quand même assez, assez problématique. Donc, au départ, on lance une pétition, juste en soutien à nos collègues et amis. Et en fait, très rapidement, on s'est débordé parce que cette pétition, alors c'est peut-être parce que tout le monde était, on avait été confinés, donc tout le monde était hyper connecté, répondait à tout, etc., mais il y a eu plein de signatures, et notamment de beaucoup de collègues dans les médias locaux qui disaient « Nous aussi, on est auto-censurés, on est empêchés de faire des sujets sur l'agro-industrie dans nos médias, mais nous, on ne peut pas parler parce qu'on est des titulaires, si on parle, ça va être compliqué, etc. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des journalistes indépendants qui vivaient des pressions, mais en réalité, il y a aussi tous les journalistes qui, sur ces questions-là, vivent des pressions. Et donc, en fait, de ces deux événements à la pétition, on s'est dit, mais en fait, bah, il faut qu'on aille plus loin et qu'on aille faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du journalisme d'investigation. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Splend. Et donc, pour répondre à votre question sur nos thèmes de prédilection, bah, au départ, ils sont vraiment, c'est des thèmes sur l'agro-industrie. Alors, pas les algues vertes, parce que ça, c'était Inès, mais sur l'ammoniac à Saint-Malo, sur le lobby et enfin, en tous les cas, tout ce qui touche au lobby porcin. Enfin, voilà, on a traité tout ça, on a traité le bocage, parce que tout ça est interconnecté. Et puis, nos méthodologies, bah, c'est qu'en fait, on est journalistes d'investigation, c'est-à-dire qu'on travaille sur le temps long. Et donc, quand on lance quatre enquêtes par an, qu'on lance un peu en parallèle, ce qui fait qu'une enquête, elle prend 3, 4, 5, jusqu'à 6 mois. Et en fait, c'est vraiment du temps très long qui nous permet d'aborder tous ces enjeux et pas dans une obligation de temporalité, de répondre à de l'actualité, etc., mais simplement pour décrire ce qu'on ne nous dit pas par rapport au récit dont on parlait tout à l'heure, par exemple.
Et vous avez aussi enquêté récemment sur la bétonisation du littoral en Bretagne ?
Oui, c'est notre dernière enquête, celle-ci, oui. Effectivement. Bah, celle-ci, en plus, puisqu'on parle de méthodologie, on fait à Plante ce qu'on appelle du data journalisme. C'est-à-dire que des fois, l'enquête n'est pas plus compliquée, entre guillemets, que d'aller mettre son nez dans toutes les données publiques. C'est-à-dire que là, on n'a même pas à demander des autorisations, à aller chercher des groupes privés, etc. Enfin, l'enquête sur le littoral et la bétonisation du littoral, c'est une compulsion de 10 ans de données publiques, que ce soit l'INSEE, que ce soit les données régionales, etc. Et en fait, ce data journalisme nous a permis de prendre conscience que le littoral breton était grignoté, et notamment l'agriculture avec les hangars, etc. Et que même s'il y a des lois, même s'il y a des réglementations, il y a un tel flou, notamment sur la loi littorale et compagnie, que c'est un peu au bon vouloir du politique, à la vigilance ou pas des citoyens. Et donc, notre enquête, elle montre aussi que les journalistes font leur boulot, mais que, par exemple, si l'État ne le fait pas bien ou mal, c'est des fois simplement parce qu'il n'y a pas assez d'agents dans les préfectures, que les salariés sont sans sous-effectif, que les maires, bah, comme la loi littorale n'est pas très précise sur ce qu'est un village, un hameau, etc., bah, le maire, il comprend ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Enfin, vous voyez, donc, par exemple, une enquête, ça peut être simplement de la donnée publique, et raconter ce que cette donnée publique provoque concrètement, notamment sur le littoral.
Donc, pour discuter avec Pierre-Yves Bulteau du journalisme d'investigation, du data journalisme, du remembrement et de cette histoire bretonne douloureuse, vous avez rendez-vous jeudi de 19h30 à 22h à Renard-Pince à Châtelain. La soirée commencera par la diffusion d'un podcast sur le remembrement, puis Pierre-Yves Bulteau expliquera ce qu'est Splend, le média breton indépendant d'investigation. Et puis ensuite, il y aura aussi la diffusion de l'archive vidéo 1971, Les Bretons alertent sur la modification des champs. C'est une archive INA, Institut National de l'Audiovisuel. On pourra discuter avec Pierre-Yves Bulteau sur la question du remembrement à partir de 20h45. Donc rendez-vous jeudi à 19h30 à Renard-Pince à Châtelain, et l'entrée est à prix libre.